Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence pour ce qui va être le 167e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est la semaine de notre radio-don. Et je rappelle que Radio Présence a besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer des programmes et des émissions de qualité pour financer son fonctionnement et son développement, surtout à l'époque de la révolution numérique. Nous comptons donc sur votre fidélité et votre générosité que je vous invite à manifester en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 pour vos promesses de dons. Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site web directement www.radioprésence.com. Un grand merci par avance. Quant à Mélomanie, j'ai le plaisir d'y retrouver aujourd'hui deux complices présents depuis les premiers numéros. Je salue Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Robert Pénavert, dont je salue aussi le retour dans cette émission. Voilà donc notre trio reconstitué pour ce numéro que nous allons poursuivre maintenant, en revenant sur l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
L'actualité récente va se résumer pour nous au concert donné par les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, avec la mezzo-soprano Monica Baccelli. C'était lundi au Théâtre du Capitole. Vous y étiez bien sûr, Serge Chosy. Vous avez d'ailleurs présenté le concert et son programme, pour le moins singulier. Il réunissait deux compositeurs italiens, certes, mais un du tout début du baroque et l'autre de la fin du XXe siècle, Claudio Monteverdi et Luciano Berio. Étrange sur le papier.
Tout à fait étrange, mais finalement assez logique. Ils ont en commun pas mal de caractéristiques. La première, c'est ce que me diraient les Italiens, leur italianità, évidemment, tous les deux. Et puis surtout, le caractère révolutionnaire de leur... De la nouvelle musique qu'ils présentent, aussi bien Monteverdi que Berio. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Autre lien particulier, Berio était un fanat de Monteverdi, au point qu'il a composé en 1984 un opéra qui s'appelle Orfeo II, donc un opéra pour voix, orchestre et bande magnétique, bon... dont ne disposait pas Monteverdi à son époque, évidemment. Donc, il y a vraiment des liens très forts entre les deux. Hein. Donc, ce n'était pas illogique, c'était vraiment une très bonne idée. Et il s'est avéré à l'usage que c'était très efficace et que ça avait impacté sur le public, d'autant plus qu'ils avaient choisi, à juste titre, je trouve, de ne pas faire une partie ancienne, une partie moderne, mais d'intercaler les pièces Monteverdi, Berio, etc., pendant toute...
On alternait à 4 siècles de distance.
Exactement, 4 siècles de distance, tout de même quelque chose. Hein. Donc, on a entendu en fait 5 pièces vocales et instrumentales de Monteverdi et 4 séquenze de Berio, puisque Berio a appelé ses 14 pièces pour instrument unique des séquenze. Donc il y avait vraiment un mélange... harmonieux, en fait. Finalement, on s'apercevait que, et on découvrait à cette occasion que même dans Monteverdi, il y a des audaces incroyables, des audaces harmoniques, des petites dissonances qui apparaissent, une note qui semble être en dehors de la gamme dans laquelle on se trouve. Enfin, donc, vraiment un grand intérêt, un grand intérêt.
Voilà, donc on a mis en miroir ces deux compositeurs. Alors, comment ça s'est déroulé? Ça a commencé par quoi? Par Monteverdi?
Alors, ça a commencé par Monteverdi et avec du extrait du 7e livre des Madrigaux, Templo la Cetra, chanté donc par Monica Baccelli, qui est une mezzo-soprano italienne vraiment de grande qualité. D'abord, un timbre très beau, très rond, très chaleureux, une vocalisation parfaite. Elle ne poussait pas sur la vocalisation pour faire du brillant, mais très beau, et surtout très expressif. Et c'est très important puisque on sait que Monteverdi, dans sa révolution musicale, eh bien, a illustré ce qu'il a appelé le recitar cantando, c'est-à-dire le récit chanté, qui donne la priorité au texte. C'est très important pour lui. La musique, elle est là pour soutenir le texte et pour lui donner son pouvoir expressif. Le texte est non seulement très important, et là, la cantatrice avait une diction parfaite, hein, on comprenait absolument tous les mots, et l'intérêt de cette expressivité apparaissait immédiatement. Donc il y a eu d'abord Tempo la cetra, puis ensuite la fameuse Lettera amorosa, la lettre amoureuse, qui est une pure merveille, hein, et qui est extrait là aussi du livre 7 des Madrigaux, ça date de 1619, hein. Ces deux madrigaux. Et puis un troisième madrigal magnifique qui s'appelle Zefiro Torna, et alors qui est un duo entre la voix et le cornet à bouquin. Donc il y a une espèce d'imitation entre les deux qui était vraiment magnifique. Et puis il y a eu deux motets aussi, deux motets alors en latin, donc pièces religieuses, le Laudate Dominum, c'est extrait de la Selva Morale e Spirituale, cette fameuse forêt spirituelle et morale donc de Monteverdi toujours. Et puis le Confitebor Tibi Domine, extrait également de cette même Selva Morale. Donc cinq pièces très belles, magnifiquement chantées, magnifiquement jouées, de la dentelle quoi, vraiment un grand moment. Et puis ces pièces, eh ben, elles étaient donc intercalées avec quatre des 14 séquences que Berio a composées. Alors, bon, une des séquences est pour voix, mais là, elle n'a pas été donnée. Par contre, on a eu droit d'abord à la séquence pour trompette. Alors, une séquence incroyable qui est, je mets des guillemets, accompagnée par un piano muet, mais résonnant. Alors, qu'est-ce qu'un piano muet ? Eh bien, c'est un piano sur lequel le pianiste ne joue pas, ne frappe pas les touches, mais les enfonce légèrement pour libérer les cordes du piano de l'étouffoir et permettre à ces cordes de résonner en fonction des notes de la trompette. Et ça, c'est une idée géniale, incroyable. Et là, on a assisté à non seulement le solo de trompette, mais des nappes de notes de musique très étranges, un peu, mais vraiment une impression qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, quoi. Donc bravo, et d'autant plus que le soliste qui jouait cette séquence, c'est Clément Formace, qui joue souvent avec les sacs-boutiers, mais là évidemment qui jouait avec la trompette moderne, hein, et qui est vraiment un virtuose absolu. Donc ça, c'était la première. La deuxième était la séquence pour clarinette. Alors, d'après Berio lui-même, elle est là pour révéler les symétries et les redondances d'une longue mélodie. Et c'est vrai, c'est une longue mélodie qui se polarise autour d'un sol dièse. Ben, le sol dièse, c'est pourquoi ? Alors là, je ne saurais pas vous le dire. Mais elle explore vraiment cette séquence à toutes les possibilités de la clarinette. D'abord, sa vocalité, parce que la clarinette, c'est proche de la voix humaine. Hein. Et puis surtout, son exceptionnelle vélocité. Et là, La soliste qui a joué cette séquence, qui s'appelle Elsa Santurelli, c'était merveilleux, de douceur, de finesse, d'intelligence, avec des nuances, des pianissimi où il fallait tendre l'oreille pour entendre le son, et des fortissimi impressionnants, donc un grand moment là aussi. Et puis alors, la séquence suivante était pour saxophone soprano. Alors là, il s'agit d'une transcription. L'original était composé par Berio pour hautbois. Et alors là, c'est pas un sol dièse, c'est un si qui est privilégié. Et donc un si qui se prolonge pendant toute la pièce, qui est joué sur l'orgue positif, qui était là pour le Monteverdi donc. Et alors cette note, c'est le fil d'Ariane de la pièce. Pourquoi ? Parce que le si, dans la notation anglo-saxonne, c'est la lettre H. Et tout simplement, Berio avait dédié cette séquence à l'origine, donc pour hautbois, à Hans Holliger, qui était le grand oboïste du XXe siècle. Donc voilà, donc il y a cette note-ci qui se prolonge pendant toute la séquence. Et enfin, la dernière, la plus spectaculaire, on pourrait dire, c'est la séquence pour trombone, qui est un hommage au clown suisse Grock. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut le préciser, que le saxophone soprano qui jouait ce soir-là, c'est Thomas Barthélémy, alors qui sort des sons vraiment incroyables. Hein. Alors des sons quelquefois très purs et quelquefois des sons sales, comme on en trouve dans le jazz, donc vraiment magnifique. Et enfin donc, je reviens à la séquence pour trombone, donc dédiée au clown Grock, qui interrompait souvent ses sketchs par la question « Why ?». Et donc toute la séquence, c'est les tentatives de l'interprète de faire dire « Why ?» à son trombone. Et il a du mal, au point que c'est lui-même qui doit prononcer le mot au milieu de la pièce « Why ?», lui-même avec sa propre voix. Et donc alors, il y a l'utilisation de la fameuse sourdine « Wah-wah », cette sourdine qui est utilisée beaucoup dans le jazz. Alors là, c'était, alors, il avait de multiples rôles dans la soirée, puisque c'est lui qui faisait le fameux si en question, c'est lui qui tenait le piano muet, et c'est donc Aymeric Fournes, que l'on connaît bien à Toulouse, puisqu'il est l'un des trombones du pupitre de l'Orchestre National du Capitole. Il joue également avec les sacoboutiers, il joue de la sacoboute. Enfin,
musicien proté.
Ah oui, complètement, oui. Et donc, alors là, il est arrivé avec son nez rouge de clown, évidemment, hein, qui l'a fini
par...
Il aime
bien se mettre en scène, il est un peu acteur.
Il est complètement acteur, hein. Donc, il a fait un vrai numéro, un numéro qui a eu un succès fou, évidemment, avec toutes les sonorités incroyables, Flattertsung qu'il manie avec une aisance incroyable, avec son instrument, donc ça a été un très très grand succès, pour lui en particulier.
Voilà donc pour ce beau concert des Sacboutiers lundi au Théâtre du Capitole avec la mezzo-soprano Monica Baccelli, Monteverdi et Berlioz en miroir. Je n'ai bien sûr pas d'extrait de ce programme à diffuser puisqu'il s'agissait d'une première. J'ai en revanche un extrait du CD La Lyre Amoureuse paru récemment, enregistré par les Sacboutiers avec le contre-ténor Dominique Viss. Avant de vous le faire écouter, nouvel appel au don à tous les auditeurs de cette émission qui veulent apporter leur soutien financier à Radio Présence. Vous pouvez faire une promesse de don en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou faire directement un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. On écoute maintenant les Sacboutiers et Dominique Viss qui interprète Amanti se bramate, pièce du compositeur italien Luigi Rossi. Amanti se bramate, pièce de Luigi Rossi, interprétée par Dominique Viss, accompagnée par les Sacboutiers, un extrait de leur CD La Lyre Amoureuse que vous pouvez vous procurer sur le site web des Sacboutiers. Fin de cette première partie d'émission, petite pause avant de vous présenter l'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Je retrouve donc Serge Chausier et Robert Pénavert pour vous présenter l'agenda musical des prochains jours. Je disais tout à l'heure que vous étiez l'un et l'autre des fidèles de Mélomanie et de Radio Présence d'ailleurs depuis les tout premiers numéros. Alors comme c'est la semaine du Radiodon, je voulais vous demander à chacun pourquoi vous aimez participer à cette émission et pourquoi il faut, selon vous, soutenir Radio Présence afin que Mélomanie puisse continuer chaque semaine de rendre compte et d'annoncer l'actualité musicale classique. Robert Pénavert, dites-nous quelques mots.
Oui, bah écoutez, pour moi, j'imagine que pour Serge, mais il va s'exprimer, c'est un peu pareil. D'abord, je pense qu'il faut remercier cette radio de la place qu'elle accorde à la musique dite classique. Voilà, parce que je pense que vous êtes unique sur la région à faire ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à venir et je voudrais remercier Thibaut Dautuil, bien évidemment, le directeur de la station, et vous, Eric. Alors, particulièrement parce que, bon, vous savez, comme tout le monde, on écoute à la télévision, à la radio, pas mal d'émissions consacrées à la musique classique, mais il est vraiment rare de trouver un animateur comme vous qui soit aussi compétent et qui pose les bonnes questions, qui connaissent le sujet. Comme vous, pour moi, c'est un grand plaisir de venir parce que, voilà, je suis en confiance avec vous. Je sais qu'il n'y a aucun piège. Voilà. Et je pense qu'il faut soutenir effectivement cette radio pour cette initiative et puis pour les personnes qui la composent.
Merci beaucoup pour ces mots, Robert. À vous, Serge.
Bah, écoutez, Robert a dit l'essentiel de ce que je souhaitais dire également. Et c'est vrai, je crois que cette émission en particulier, Mélomanie, d'abord j'aime bien le titre, est rare hein, sur les ondes régionales. Et, bon, nationalement, il y a France Musique, Radio Classique, bon, mais qui ne peut pas s'épancher sur tous les programmes et surtout toutes les activités qui se déroulent en France et qui sont nombreuses. Ah, il se trouve qu'à Toulouse, nous sommes favorisés. Nous avons une activité musicale énorme, énorme, au point que nous en discutions il n'y a pas très longtemps, que très souvent le même soir, c'est déchirant. Il faut prendre des décisions, on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas aller à deux concerts à la fois. Donc c'est très bien. Et vraiment, Radio Présence et en particulier Mélomanie joue un rôle, je crois, qui est unique hein, localement. Donc, bravo, continuons. Et donc, il faut continuer à aider la radio pour que ce type d'émission se poursuive.
Eh bien, merci à vous aussi, Serge, pour ces paroles. Et si vous souhaitez soutenir financièrement Mélomanie et Radio Présence, je rappelle que vous pouvez faire vos promesses de dons en appelant le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou faire directement un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Retour maintenant à l'agenda musical des jours à venir, que nous allons commencer avec Wozzeck, l'opéra d'Alban Berg. Il va être donné au Théâtre du Capitole du 19 au 25 novembre. Il y a 4 représentations pour cette nouvelle production, mise en scène par Michel Faux, et qui va donner lieu aux prises de rôle très attendu de Sophie Koch et Stéphane Degout en ce qui concerne les deux personnages principaux, Marie et Wozzeck. Donc, Robert Pénavert va nous en dire plus, mais Robert, comme vous êtes la mémoire vivante de l'Opéra Toulouse, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quand remonte la première de Wozzeck au Théâtre du Capitole et quand il y fut donné pour la dernière fois? Alors la première et la dernière, ce sont les deux seules représentations, je crois, qu'il y a eu dans l'histoire à Toulouse.
Effectivement, écoutez, voilà, c'est en novembre 73 que j'ai vu pour la première fois Wozzeck. Et en fait, c'était la première fois que c'était donné au Théâtre du Capitole. C'était dans le cadre d'une coproduction avec le Grand Théâtre de Bordeaux, mise en scène par Louis Herlot, enfin bon, peu importe. Mais c'était surtout en français. Voilà, et je me souviens, il n'y avait quasiment personne dans la salle. Voilà. Et donc, du coup, ça a dû un peu refroidir les ardeurs des directeurs du Théâtre du Capitole, puisqu'il a fallu attendre 22 ans pour le retrouver dans 1995. Mais cette fois-ci, c'était en allemand, c'est-à-dire dans la langue d'origine. C'était pas une production maison, c'était une production qui avait été louée à l'Opéra de Nice, et dont, bien sûr, qui dit Opéra de Nice, dit mise en scène Pierre Médecin. Et je me souviens que il y avait une prise de rôle très importante, c'était celle de Wozzeck par un Toulousain, Jean-Philippe Lafont, Voilà, qui était un Wozzeck absolument halluciné et hallucinant. Et puis l'entourer un duo absolument effrayant, qui était composé de Riccardo Cassinelli dans Le Capitaine et d'une immense légende de l'opéra allemand, c'était Walter Berry, mais qui a été peut-être l'un des plus grands Wozzeck, si ce n'est le plus grand Wozzeck, l'un des deux ou trois plus grands Wozzeck du XXe siècle. Mais bon, il chantait le docteur. Et c'était sous la baguette de James Johnson. Et, c'est, voilà. Et depuis, plus rien. Donc, en fait, on va dire que c'est tous les 25
ans. C'est tous les quarts de siècle.
C'est tous les quarts de siècle.
Bah, déjà, on a attendu deux quarts de siècle pour l'avoir à Toulouse, parce que la création, c'est 1925 à Vienne.
Oui, voilà.
Donc, la création à Toulouse, c'est 1973, presque 50 ans après. Et après, c'est tous les 25 ans.
Voilà.
Donc, c'est une raison de plus pour ne pas la rater du 19 au 25 novembre. Alors, avant qu'on entre dans le détail de la distribution et de l'histoire de cet opéra, je voudrais donner un petit aperçu de la musique d'Alban Berg avec cet interlude orchestral qu'on entend vers la fin de l'œuvre, entre la scène 4 et la scène 5 de l'acte 3. L'interlude orchestral entre la scène 4 et la scène 5 de l'acte 3, le dernier de Wozzeck, magnifique composition d'Alban Berg, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Je redonne maintenant le micro à Robert Pénavert pour qu'il nous présente cette nouvelle production au Théâtre du Capitole. Pourquoi est-ce un événement à ne pas rater, en dehors du fait que c'est rarement donné à Toulouse, au point que beaucoup de passionnés vont venir de la France entière pour y assister? Ça, je le sais.
Ah oui, c'est sûr. Alors, de la France entière, même d'ailleurs. C'est un événement qui traverse les frontières, c'est évident, parce que comme ça, là, sur le papier, a priori, je serais tenté de dire que c'est le climax de la saison lyrique 21-22 du Théâtre du Capitole. Mais si vous voulez, Eric, deux secondes pour parler un peu de l'œuvre.
De l'œuvre elle-même, avant de parler de la production.
Et du musicien, si vous voulez bien. Alors, d'abord, dire que Alban Berg appartient à ce qu'on appelle la deuxième école de Vienne. Alors, il n'est pas tout seul, évidemment.
On va rappeler que la première, c'était Mozart, Beethoven, Haydn.
La première, c'était Haydn, Mozart, Beethoven.
Les classiques viennois.
Et la deuxième, c'était... Bon, elle est surtout connue pour les travaux de Berg, de Webern et de Schoenberg. Schoenberg, d'ailleurs, qui a été le professeur d'Alban Berg. Alors, évidemment, c'est derrière cette école de deuxième école de Vienne, il y a des choses qui font peur. Puis, il y a des termes tels que dodécaphonisme, musique sérielle, etc. Alors, simplement dire que non seulement c'est un maillon essentiel, capital, même dans l'évolution de l'art lyrique, mais aussi dire que C'est un opéra qui, autant en termes de partition strictement musicale que de partition vocale, fait appel à des souvenirs que l'on peut retrouver chez Richard Strauss, chez Debussy, chez Wagner et même chez Puccini. Donc c'est très chantant, la musique est vraiment et surtout expressionniste. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Voilà.
C'est le mouvement expressionniste. Allemand, autrichien, germanique en général, de l'époque aussi, de cette période, peinture, en musique, au théâtre, voilà, donc il faut rappeler ça aussi.
Alors, l'origine, c'est une pièce de théâtre d'un malheureux dramaturge, je dis malheureux parce que le pauvre est mort à 23 ans, mais il avait eu le temps d'écrire une pièce qui s'appelait Wojciech et qui relatait un fait divers, tout simplement un homme. Alors, fou ou pas fou, on ne sait pas, d'après le compte rendu médical ultime, puisque ce pauvre homme a été décapité, hein, puisqu'il avait tué sa femme. Alors, dans un premier temps, on a cru qu'il était irresponsable, mais finalement, la médecine l'a...
Fait divers de 1821.
Voilà, donc nous sommes bien à l'époque juste post-napoléonienne, hein, c'est, voilà, pour situer. Et donc, le jeune Georg Büchner... le jeune, bien sûr, a écrit une pièce et Berg fait connaissance avec cette pièce en 1914 et il accuse, pardon, en 1914, oui, je ne me trompe pas, c'est-à-dire quasiment 100 ans après, et il n'a qu'une envie, c'est de la mettre en musique. Donc, en 1921, le brouillon de la partition est achevé. Un an après, l'orchestration est terminée et un an après, à nouveau, nous sommes en 1923, grâce à l'aide financière d'Alma Mahler, avec qui Alban Berg était très lié, eh bien, Berg peut faire éditer la partition et la création a lieu alors sous la direction d'un immense chef d'orchestre, Erich Kleibert, à la Staatsoper de Berlin en 1925. Bon, les réactions du public et de la presse sont un peu variées, il faut dire les choses comme elles sont, mais très très rapidement, le monde entier a conscience de l'importance de cette pièce, de ce maillon essentiel dans l'évolution de la musique, non seulement dans la musique, mais de l'opéra. Et donc, tous les plus grands théâtres de la planète vont s'emparer de cette œuvre. Alors, évidemment, elle ne fait pas partie du répertoire courant, parce que c'est une œuvre, elle n'est pas longue, elle fait une heure et demie. Hein.
Oui, c'est court, précisément.
Voilà, et très souvent, elle est donnée sans entracte, d'ailleurs. Hein. Mais c'est une œuvre magistrale, et on se laisse happer par cette œuvre, c'est une œuvre très cinématographique en même temps, et on est immédiatement, quand je dis happé, c'est ça, on est fasciné, on est très vite autant halluciné par tous ces personnages relativement quand même toxiques, il faut le dire, parce que bon, alors voilà, le personnage de Wojciech, c'est un pauvre soldat qui vit en couple avec une jeune femme, Marie, avec tous les deux, ils ont eu un enfant. Mais en fait, les fins de mois sont un peu difficiles et donc, pour les arrondir, Franz, puisque Wojciech se prénomme Franz, d'abord est barbier d'occasion et dans la première scène, on le voit, il est en train de raser son capitaine. Et puis ensuite, il est entre les mains d'un docteur qui fait avec lui des expériences... on va dire médical, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait autorisé, quoique, bon, voilà. Et pendant ce temps-là, Marie, elle se laisse aller à quelques excentricités sentimentales, et en particulier au beau sourire et à la belle prestance d'un tambour-major, voilà. Et finalement, Wojciech apprend cette infidélité et il la tue. Voilà. Bon, voilà la trame de l'histoire. Enfin, vous voyez,
histoire
bon,
vraiment tragique.
Ah ben c'est apparemment...
oui, d'autant plus qu'il se donne la mort après.
Oui, oui, voilà, tragique, très sombre.
Et après, de façon à mettre un point final à cette histoire.
Avec des sentiments exacerbés.
Il va se noyer. Alors, le rencontrer comme ça, à vrai dire, ça ne dit pas grand-chose. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la musique qui est là-dessous. C'est la partition vocale qui sous-tend ses caractères. Et là, nous avons vraiment un chef-d'œuvre, mais absolu, il n'y a pas une note à enlever, il n'y a pas une seule longueur. Comme je le disais, il y a un montage véritablement cinématographique, mais un film qui serait monté avec un excellent monteur. Voilà.
D'ailleurs, donc, ça a été porté au cinéma aussi, hein, la pièce
voilà,
de Buchner.
Werner Herzog l'a monté avec
Klaus Kinski,
dans le rôle de Wojciech. Inutile de vous dire, le personnage halluciné.
Comme acteur au jeu un peu expressionniste.
Oui, un peu expressionniste. Voilà, donc c'est une œuvre qu'il faut aller voir, il ne faut pas surtout qu'elle fasse peur. Et puis à la fin, au bout d'une heure et demie, évidemment, on est à bout de souffle. On est à bout de souffle, on est tétanisé, et quand la musique s'arrête, c'est très rare que les applaudissements crépitent immédiatement, parce que le public a besoin de reprendre son souffle.
De récupérer, si on peut
voilà.
dire.
Voilà. Et ce que nous propose, si vous voulez bien, on va en parler, à présent, ce que nous propose le Théâtre du Capitole, c'est une nouvelle production. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va voir à Toulouse le 19, et puis ensuite
jusqu'au
25, voilà, n'a jamais été vu par ailleurs. Alors, premièrement, en termes de production, décor, costume, lumière, etc. Ça a été confié à Michel Faux. Alors, je discutais avec Michel Faux avant de venir vous voir, parce que je voulais avoir quand même quelque chose à vous raconter sur... Alors, sans spoiler véritablement, bien évidemment, mais vous dire que Michel Faux... a décidé de faire un choc esthétique entre la partie visuelle de cette œuvre qui va reporter à l'époque napoléonienne française.
C'est-à-dire au
début du XIXe siècle, au moment où le fait divers a eu lieu. Voilà. Donc vous allez voir, il y a des... Ben voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, mais rien ne va vous étonner, parce que tout le monde connaît le début du XIXe siècle en Europe.
Enfin, on imagine les costumes.
Voilà. Mais ce qu'il faut voir également, puis je vais vous dire autre chose derrière quand même, je vais vous confier une petite indiscrétion, c'est que la musique percute cette écrite 100 ans après, percute complètement. Il y a ce qu'on pourrait imaginer être un hiatus, qui est en fait quelque chose qui fonctionne parfaitement. Donc, vous verrez comment ça fonctionne. C'est assez hallucinant. Alors ensuite, il y avait le problème, m'a dit Michel Faux, le problème de cet enfant. Parce que ce que décide Michel Faux, c'est de montrer cet opéra, cette action dramatique, comme un cauchemar vécu par l'enfant. Donc, évidemment, c'est un cauchemar avec des scènes relativement violentes, relativement crues tout de même. Hein. Voilà. Et donc, comme il m'a expliqué, il était quand même impossible de mettre un enfant de 4 ou 5 ans devant des scènes pareilles. Donc, il a trouvé un comédien un peu androgyne, on va dire. Hein. Et puis voilà, ensuite, c'est le mystère du théâtre et la magie du théâtre, et qui va être là et qui va réagir, évidemment, en fonction des événements. Il va être le témoin de ce drame. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon, bon, voilà, Michel Faux
m'en voudrait beaucoup.
Mais...
Parlez-nous de la distribution, rapidement maintenant, donc voilà. Les deux prises de rôle, bien sûr.
Alors, Christophe Grissi a décidé de faire, d'inviter Léo Hussein
pour la direction musicale.
À la direction d'orchestre. Alors, ce n'est pas la première fois que Léo Hussein est dans la fosse du Capitole, parce que c'était lui qui avait été chargé de la création à Toulouse de la Ville Morte. Voilà, c'était en 2018. Et ensuite, il a décidé d'offrir des prises de rôle, et pas n'importe lesquelles. Alors évidemment, la première, c'est le rôle-titre, et là, il a offert à Stéphane de Goutte, voilà, qui en rêvait depuis toujours, parce qu'en fait, il avait toujours peur de cet opéra, et on le comprend, parce qu'il faut dire que Wojciech est là, sur scène, en permanence. Voilà. Et puis, il n'est pas là pour faire de la figuration, parce qu'il y a une partition vocale qui couvre 3 octaves, mais bon, fort heureusement, elle est très, très bien écrite. Et ensuite, il a eu le déclic, un peu, un spectacle que j'ai vu, lorsqu'il a vu, en 2006, à Bastille, Simon Kinleyside. Chanter ce rôle, et il s'est dit, ben, si lui le fait, moi je dois pouvoir le faire. Voilà. Et donc, avant même que Christophe Grissi soit nommé, ils étaient un peu tombés d'accord sur 2 prises de rôle qu'il ferait au Théâtre du Capitole. C'était Eugène Onéguin.
Qui n'a pu avoir lieu, voilà. Mais c'est alors, sans doute partie remise.
Et alors, Eugène Onéguin s'est remis, je crois, dans 2 saisons. Mais il veut le faire à tout prix à Toulouse. Et puis ensuite, il y a Sophie Coche. Alors, Sophie Coche, on ne la présente plus aux Toulousains,
non,
bien évidemment.
Toulousain.
Bon, voilà. Et donc, ça a été la dernière Kundry de Parsifal. qui était une prise de rôle également, et autre prise de rôle, Marie. Voilà. Et donc, bah, évidemment, Sophie Coche est ravie de faire ça à Toulouse. C'est une pierre de plus dans son répertoire de soprano.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Mais elle ne va pas s'arrêter là, puisqu'on le sait, au printemps prochain, elle va aborder Sieglind, sa première Sieglind, à l'Opéra de Marseille. Ce ne sont pas les seules prises de rôle, puisqu'il y a également un ténor que l'on connaît bien à Toulouse, c'est Nikolaï Choukov.
Bon, qui est autrichien, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire.
Voilà, oui. Alors, bon, il avait démarré un peu, on va dire, un peu ce que moi j'appellerais une peau de banane, hein, à Toulouse en 2014. On l'avait invité, j'ignore un peu pourquoi, pour chanter Touride dans Cavalia Rusticana, où il n'était absolument pas crédible, étant donné sa vocalité. Je ne comprends pas trop pourquoi il est venu chanter ça, mais il s'est largement rattrapé derrière,
oh oui.
Puisque en 2010, il chantait dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Il faisait donc Jim Mahoney. Il était absolument sublime là-dedans. Puis bon, il n'y a pas très longtemps, il était dans Parsifal. Donc bon, voilà, et il a été un Parsifal génial. C'est à mon sens l'un des grands Parsifal aujourd'hui sur le marché.
Formidable,
je ne suis pas très sûr d'ailleurs que...
Et donc là, il va faire le tambour major.
Sa venue à Toulouse s'arrête au sergent-major.
Certainement pas.
Qui va faire là, je ne crois pas. Et puis ensuite, il va y avoir une autre prise de rôle. C'est la prise de rôle de Falk Struckmann. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il vient à Toulouse. Là, cette fois-ci, il vient pour le docteur. Mais il était à Toulouse là, pour l'une des reprises d'Electra à la Lohengrin, où il faisait Oreste. À cette époque-là, c'était un tout jeune Oreste, il avait 34 ans, mais il avait été quand même assez étonnant. Voilà. Donc, une distribution, mais vraiment merveilleuse. Alors, pour terminer, c'est Thomas Bettinger qui est dans le rôle formidablement émouvant et très lyrique d'Andrés, et l'immense Wolfgang Ablinger-Sperak dans celui du rôle un peu moins reluisant du capitaine. Voilà, j'ai tout.
Voilà, et puis il y aura Annaïk Morel en Margrethe, qu'on connaît bien aussi et qu'on apprécie beaucoup à Toulouse. Et bien, avant de passer à un autre événement musical des jours à venir, voici un autre extrait de Wozzeck. Il s'agit d'un air chanté par Wozzeck lui-même à l'acte 1, via Arme Leut, et il est interprété par un chanteur qu'on aime beaucoup à Toulouse aussi, le baryton allemand Matthias Görn.
Wir dann
Wir armen Leute, air de Wozzeck, à l'acte 1, chanté par le baryton allemand Matthias Görn. Je rappelle que la nouvelle production de l'opéra d'Alban Berg, mise en scène par Michel Faux, est à découvrir au Théâtre du Capitole du 19 au 25 novembre, lors de 4 représentations données les 19, 21, 23 et 25 de ce mois. Nous allons poursuivre, mais je refais auparavant un nouvel appel à tous ceux qui veulent soutenir Radio Présence. Vous pouvez faire vos promesses de dons en appelant le 05 62 48 63 00 ou faire directement un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. On enchaîne avec un autre événement très attendu, un concert du cycle des grands interprètes donné également ce vendredi 19 novembre à 20h à la Halle aux Grains. L'orchestre de l'Opéra National de Paris va s'y produire. Pour la première fois à Toulouse, sous la baguette de son nouveau directeur musical, le chef vénézuélien Gustavo Dudamel. Quel programme ont-ils nous proposé, Serge ?
D'abord, rappelons quand même que Gustave Dudamel est déjà venu à Toulouse, mais c'était en 2016, mais il dirigeait son orchestre, je peux dire.
Et c'est pour ça que je précisais que c'est Simon la première Bolivar. À Toulouse pour lui, avec l'Opéra avec National cette, de
ah oui,
Paris.
Oui, avec cette, c'est la première, pour la bonne raison qu'il a été nommé directeur musical de l'Opéra de Paris à partir du 1er août 2021.
C'est tout récent.
Donc c'est vraiment très récent. Et cet orchestre qui a longtemps été dirigé par Philippe Jordan, grand chef français, donc l'orchestre s'est choisi, Gustave Dudamel, à la suite, dit-on, d'un coup de foudre pendant la représentation d'un opéra que Robert avait vu. C'était La Bohème de Puccini, un opéra avec une mise en scène très contestée à l'époque, très particulière, mais c'est là que le coup de foudre est parti, soi-disant, entre Gustave Dudamel et les musiciens de l'orchestre.
Eh bien, alors, tant mieux pour les deux parties.
Excusez-moi, mais effectivement, puisque tu m'as lancé la perche, hein, oui, ça a été très contesté par la presse parisienne.
Oui.
Mais le public y a fait, bon, puisque j'y étais, j'y ai assisté, un véritable triomphe à cette production. C'est La Bohème dans l'espace. Voilà. Et Dudamel nous a donné à entendre une partition de Puccini comme, personnellement, je l'avais jamais entendu. Voilà. C'est un immense chef.
Bah, c'est un des grands chefs actuels, Dudamel.
Ah oui, oui, absolument. Ouais.
Encore jeune en plus. Bon, alors, Serge, le programme.
Oui, alors le programme, c'est beaucoup de musique française, puisqu'il y a d'abord l'Alborada del Gracioso de Ravel, dans sa version pour orchestre évidemment, et puis la Symphonie Fantastique de Berlioz, ce qui n'est pas rien. Et entre les deux, bah, du Mozart, tout simplement, la Symphonie.
Oui, mais du Mozart de Paris.
Ah oui, 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 parisienne, la symphonie numéro 31.
Appelée aussi Paris Symphonie.
Paris, oui, oui, voilà.
Puisqu'il l'a composé à Paris, précisons-le, voilà, comme ça les gens comprendront pourquoi, en juin 1778, lors de son séjour à cette époque dans la capitale de la France. Voilà, bah, c'est un programme magnifique.
Oui. Tout à fait magnifique, absolument. Et donc, on est vraiment très anxieux de découvrir ce chef à la tête de ce bel orchestre. Redisons la qualité de l'orchestre de l'Opéra National de Paris. Hein. C'est un orchestre magnifique. Bah,
t'es pas anxieux, ne me fais pas dire
non,
que t'es anxieux.
Non, anxieux.
C'était impatient.
Pas, au contraire, impatient.
Oui, hein, ça, je comprends.
Oui, anxieux, a priori, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison.
Normalement.
Le programme, en plus, franchement, fait très, très envie. Eh bien, en voici un extrait de ce programme avec la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Gustavo Dudamel, mais à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dont il est aussi directeur musical depuis quelques années maintenant, la célèbre valse du non moins célèbre bal.
Thank you.
Le bal de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, dirigé par Gustavo Dudamel à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Le chef vénézuélien dirige l'Orchestre de l'Opéra National de Paris à la Halle aux Grains ce vendredi 19 novembre à 20h, lors d'un concert où l'on va entendre Alborada del Gracioso de Ravel, la symphonie numéro 31 de Mozart et donc la symphonie fantastique de Berlioz, un concert du cycle Les Grands Interprètes. Nous changeons maintenant de registre avec le concert de l'Orchestre National du Capitole, cette fois-ci dimanche 21 novembre à 10h45 à la Halle aux Grains. Il s'agit d'un programme destiné au jeune public, dirigé comme de coutume par Christophe Mangou. Il y a une seule œuvre au programme, Serge, quelle est cette œuvre et qui est son compositeur contemporain ?
Oui, alors d'abord, remercions Christophe Mangou pour son travail à l'intention des jeunes publics. Vraiment, il fait un boulot formidable et il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes qui assistent à ses concerts du dimanche matin. Alors là, il s'agira d'une œuvre vraiment qu'on va découvrir, hein, puisqu'elle s'appelle « Ondin et la petite sirène » et c'est sur une musique de Julien Lehérissier et sur un livret de Julie Martini, qui sera également la récitante de ce concert. Alors donc, c'est un conte qu'elle a écrit, et un conte qui a des accents tout à fait contemporains. Hein,
ah oui, oui.
Puisque c'est,
des préoccupations parler... contemporaines.
Ah oui, oui.
Même c'est si c'est un conte pour enfants, bon, évidemment.
Oui, oui, oui.
Il la féerie, la fantasmagorie, mais bon, voilà.
Mais c'est un conte écologique,
absolument.
Hein, en quelque sorte, puisque les problèmes contemporains sont abordés, qui intéressent aussi bien les petits que les grands. On sait d'ailleurs que les jeunes sont très...
On essaye de beaucoup sensibiliser les très jeunes.
Mais les très jeunes
à ces questions.
Sont très sensibilisés déjà à ces questions et sont souvent à l'avant-garde des protestations pour sauver le climat. Et donc là, il est question d'évoquer les déchets toxiques dans la mer.
Le plastique, essentiellement.
Et oui, voilà, avec ce fameux sixième continent
de plastique.
Oui, oui, que l'on a découvert il n'y a pas si longtemps.
Voilà, donc Julien Lehérissier, c'est le compositeur. Julie Martini, c'est elle qui a écrit le livret. Et c'est elle qui sera la récitante sur scène. Œuvre à dimension écologique et même écologiste. Pour que vous puissiez vous faire une idée, voici un extrait d'Ondin et la petite sirène de Julien Lehérissier avec Julie Martini en récitante.
Poisson orange avec une petite bouille de clown nage en se dandinant comme un canard. Ondin s'amuse de ce drôle de petit animal.
Ben quoi ? Te fait rire ? Tu te moques, c'est ça ?
Ondin baisse ses yeux et découvre que ses jambes tordues se sont transformées en queue de poisson. Il n'a pas le temps de se remettre de sa surprise que le poisson clown l'entraîne avec lui. Il pénètre dans le territoire du septième continent. Ondin est impressionné par ce paysage dévasté. Il y a du plastique partout. Il a l'impression d'évoluer dans une vaste poubelle. Et il n'y a plus aucun poisson. Aurais-tu accepté de m'aider si je ne m'étais cachée derrière le récit de la petite sirène ? Aurais-tu prononcé la formule magique pour moi ? Oh, vois comme tu as succombé à sa charmante et désolante histoire, mais que vous êtes sots, vous, les hommes ! Grâce à vous et aux déchets que vos inconscients sèment à tout vent, j'ai bâti le septième continent, un empire de plastique.
Extrait d'Ondin et la petite sirène de Julien Lehérissier avec Julie Martini en récitante, telle que vous allez pouvoir l'entendre dimanche 21 novembre à la Halle aux Grains, aux côtés de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Christophe Mangou. Un concert qui commence à 10h45. Je refais tout de suite un nouvel appel aux dons à ceux de nos auditeurs qui veulent soutenir Radio Présence. Nous attendons vos promesses de dons au 05 62 48 63 00, mais vous pouvez également faire directement un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Nous allons conclure cet agenda avec un événement un peu particulier. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle à Mélomanie, le forum Bypass. organisé par le collectif Éole de Pierre Jodlowski du 18 au 27 novembre à Toulouse et à Blagnac. Dites-nous un peu de quoi il retourne, Serge, et ce qu'on va pouvoir y entendre. C'est assez particulier. Hein.
Ah, c'est très particulier, mais très utile, puisqu'il s'agit d'une émanation du studio de création et d'expérimentation Éole, qui est axé quand même depuis 1998 sur les écritures musicales contemporaines. Et donc chaque année, Éole anime un forum de création musicale qui est baptisé Bypass, donc, et qui est dirigé par, comme vous l'avez dit, avec Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedoux, qui sont eux-mêmes compositeurs, évidemment. Et donc c'est une sorte d'espace de rencontre privilégié entre les jeunes compositeurs et interprètes européens. Et ça témoigne un peu de la vitalité de la composition de musique contemporaine. La musique se poursuit, elle ne s'est pas arrêtée au romantisme. Donc c'est une 7e édition cette année et qui se tourne résolument vers les nouvelles générations de la création musicale et vers les nouvelles dynamiques. Alors et le concert initial est donné par un jeune ensemble, le C200. Donc il y aura 5 concerts donnés le 18-19 novembre, puis le 23 et le 24, et également le 27, dans des lieux divers, notamment au Petit Théâtre Saint-Exupère, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, au Ring, la scène périphérique à Toulouse, hein, et donc avec des masterclass en même temps, donc masterclass de Violetta Cruz le 19 novembre. Donc c'est vraiment l'explosion, en quelque sorte, des créations contemporaines en matière musicale. Il faut vraiment y aller, parce qu'en général, c'est présenté avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse, et ça n'est pas fait pour choquer les gens. Hein.
Non, on y fait des belles découvertes, ah, ça oui. je le sais. Et donc, je précise juste, quand vous parlez de l'église Saint-Exupère, c'est à Blagnac. Le reste, c'est à Toulouse, mais plutôt côté Blagnac aussi. Le Ring, c'est vraiment pile entre les deux. Je crois que c'est la commune de Toulouse encore. Oui. Blagnac est tout près. Hein. Voilà, bon, pour situer les choses. Donc, le forum Bypass, organisé par le collectif Éole du 18 au 27 novembre à Toulouse et à Blagnac. Je vous invite à vous renseigner sur la programmation de cet événement en vous connectant au site www.studio-éole.com. Avant de rendre l'antenne, je rappelle que notre Radio Don se poursuit jusqu'à vendredi. Pour soutenir Radio Présence et pour qu'une émission comme Mélomanie puisse exister encore longtemps, nous avons besoin de votre soutien financier. Vous pouvez appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 pour faire vos promesses de dons. Et vous avez également la possibilité de faire directement un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Merci infiniment de votre générosité. C'est donc la fin de ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie encore une fois mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert d'avoir participé en y apportant leur expertise et leur passion contagieuse pour la belle musique dite classique. Merci et à bientôt Robert et Serge. Je rappelle que le concert donné par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, dirigé par Gustavo Dudamel, avec un programme Ravel, Mozart, Berlioz, a lieu à la Halograin ce vendredi 19 novembre à 20h. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Quant au concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Christophe Mangou, il se tient dimanche 21 novembre à 10h45 à la Halograin. Une seule œuvre au programme, Ondin et la Petite Sirène de Julien Lehérissier. Vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Pour votre ZEX, c'est sur le site www.théâtreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. N'oubliez pas que Mélomanie est désormais diffusée les mardis à 19h et mercredis à midi. Merci de votre écoute toujours fidèle et très bonne semaine musicale à tous.